Radio Tamani, voici les informations en français.
8h dans ce studio, vous nous écoutez sur la 96.6 FM depuis Colongo dans le cercle de Massina. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les populations du cercle de Massina lancent un cri de cœur aux autorités. Elles sont sous blocus des groupes armés depuis quelques jours. Le stade Makoro Sissoko de Kai a désormais un nouveau visage. Il a été inauguré lundi dernier. Les détails à suivre dans cette édition. Le dossier de la semaine s'intéresse aux bracelets utilisés comme parures ou objets de protection. Au Mali, ces bracelets sont prisés par les hommes et par les femmes. À la présentation, Adama Amadou Haïdara, Gagné Kanté est à la mise en onde. Comme annoncé dans les titres, les localités de Kara, Kondo et Kouan dans le cercle de Massina sont sous blocus des groupes armés depuis quelques jours. C'est en tout cas une déclaration de la jeunesse de ces localités. Elles affirment que la population vit dans la crainte et la peur au quotidien. Ces jeunes réunis en association lancent un cri de cœur aux autorités. Les détails avec notre reporter Fatih Attara avec le concours de nos correspondants.
Nous nous sentons asphyxiés et nous perdons espoir, déplore les responsables d'une de ces localités ayant requis l'anonymat. Selon lui, leur localité rencontre d'énormes difficultés à cause de l'embargo.
Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un appel à la haute autorité malienne de nous venir en secours, sinon ça ne va pas. Ils vivent dans les pétrins aujourd'hui. Il y a manque de médicaments. Aujourd'hui, nous demandons seulement l'intervention militaire.
Cette information est confirmée par une autorité locale qui a aussi souhaité rester dans l'anonymat. Selon elle, depuis quelques mois, la zone de l'interfleuve, notamment Kondo, Kara et Kouan, est sous la pression de groupes terroristes. Les gens sont dans de grandes difficultés, ajoute l'autorité.
Ils sont coupés de tout. On n'arrive pas à faire l'enfer, on n'a pas cultivé. Même les cercles libres aujourd'hui sont introuvables vraiment dans ces villages. Aucun chemin ne peut mener aujourd'hui pour les apporter assistance. Non seulement il y a cette insécurité, il y a l'hivernage.
Au même moment, l'armée malienne poursuit avec ses opérations dans plusieurs localités du Mali. À la frontière algérienne, elle a procédé à des frappes intenses la semaine dernière sur des bases de terroristes.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. 5 ans de prison ferme et une amende de 10 millions de francs CFA, c'est le délibéré dans l'affaire Bakary Togola et ses co-accusés. Au bout de quelques jours de procès, les jurés ont prononcé le verdict ce mardi 27 août 2024. Cette affaire concerne l'atteinte des biens sociaux. Ce dossier était la dernière affaire inscrite au rôle de la Cour d'assises spéciale sur les crimes économiques et financiers jugée à la Cour d'appel de Bamako. Le point avec Ousmane Alibouli.
Le verdict de la Cour est tombé. Bakary Togola et ses 4 co-accusés sont condamnés à 5 ans de prison ferme et une amende de 10 millions de francs CFA chacun. Il s'agit de Soloba Madi Keita, Seydou Koulibaly, Drissa Traoré et Kassé Koulibaly. L'ancien président de l'APECAM et ses 10 co-accusés étaient poursuivis pour atteinte au bien public et complicité, faux et usage de faux. Mais au bout d'une semaine d'audience marquée de débats contradictoires, les faits ont été réqualifié par la Cour à la demande des avocats de la défense. Les accusés ont donc été jugés sur la base d'atteinte aux biens sociaux. À la barre, les accusés ont tous nié les faits en bloc. Selon eux, l'argent supposé détourné avait été en grande partie investi dans les formations initiées à l'attention des producteurs de coton et le fonctionnement des fédérations. Rappelons que Bakary Togola et ses co-accusés étaient soupçonnés pour avoir détourné 9 milliards de francs CFA, un fonds qui appartient à la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali sur la période de 2013 à 2019. A noter que Bakary Togola est poursuivi encore dans la même affaire pour des faits de blanchissement d'argent.
Le stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaïré fait peau neuve. L'infrastructure a été inaugurée lundi dernier en présence du ministre d'État, ceux de la Jeunesse et des Sports et de l'Éducation nationale. Construit depuis 2002 lors de la Coupe d'Afrique des Nations, le stade était dans un état de dégradation avancée. Sur ce constat, le président de la transition, Assimi Goïta, a pris la décision lors de sa visite le 23 juillet 2023 à Kaï pour le rénover. Un reportage de notre correspondant à Kaï, Mohamedou Samba Diallo.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Fomba, estime que le stade Abdoulaye Mokro Sissoko répond aux normes internationales pour pouvoir organiser des compétitions internationales.
Le stade Abdoulaye Mokro Sissoko, entièrement rénové, va contribuer significativement à ce développement humain et social. Il sera désormais un haut lieu pour l'éclosion de jeunes futurs champions dans les différentes disciplines sportives.
Le maire de la commune urbaine de Kaya, Adama Nguindo, a salué le président de la transition pour ce travail. Selon lui, le développement d'un pays dépend de sa jeunesse.
La jeunesse est le moteur du changement. La jeunesse est le moteur de l'innovation. En dédiant ses infrastructures à cette frange de la population, le président de la République ne s'est pas trompé parce que le cadre qui est là aujourd'hui est assez suffisant.
Le colonel Abdoulaye Maïga, représentant du président de la transition à cette cérémonie, a instruit à l'administration du stade de sa bonne gestion. Mohamedou Samba Diallo de Pikaï pour Studio Tamani.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Au Mali, généralement, des hommes comme des femmes portent le bracelet. Parure ou objet de protection, son acceptation dépend de la conviction de tout un chacun. Que disent les différentes religions sur le port du bracelet? Comment est-il perçu dans notre société? Les détails dans ce dossier réalisé par Khalifa Guita, rendu par Moumine Sindebou.
Pour le port du bracelet, chaque citoyen a sa part de vérité. Écoutons ses réactions aux recueillis à Bamako, Kai et Koulikoro.
Moi, je porte un bracelet en argent. C'est sur une forte recommandation de ma famille. Le bracelet en argent a des vertus de porte-bonheur, de protection contre les mauvais sorts.
Je porte le bracelet pour mes rambos. Les gens qui le portent avec des sacrifices, je ne crois pas à ça.
Moi, quand même, j'y crois. J'ai hérité le mien de mon père. J'avais du mal à dormir. Mais depuis que je le porte, je n'ai plus de problème d'insomnie.
Dans la foulée, Adam Ankoni, chef de famille à Kadjolo, estime que le port du bracelet est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Il soutient que cela fait partie de nos us et coutumes. Un fer au poignet ou au doigt a beaucoup de valeur.
Avant, on faisait porter à un nouveau-né un bracelet pour le protéger des problèmes. On ne voit pas un problème venir. Ces bracelets ne sont pas de simples bracelets ordinaires. Ils protègent certains et d'autres se défendent avec. Mais de nos jours, de plus en plus, ils sont délaissés. En tout cas, nous y croyons.
La religion musulmane est formelle là-dessus. Le port de bracelet est prohibé pour les hommes. C'est ce que nous dit Alassane Modibouba, islamologue.
D'ordinaire, dans la culture arabo-musulmane, les bracelets sont automatiquement identifiés comme des parures appartenant aux femmes. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que tout homme qui se ressemble à une femme siama est maudit par Allah. Toute femme se fait ressembler à un homme est également maudit. Donc un homme ne doit pas le faire. S'en éloigner vaut beaucoup mieux de le porter pour ces questions-là.
Du côté des chrétiens évangéliques, le port du bracelet n'est pas mauvais en soi. Cependant, pour d'autres fins, la Bible ne le recommande pas. C'est ce qu'affirme le pasteur Tade Diarra.
Le bracelet, c'est une parure, un ornement que tout le monde peut porter. Mais des bracelets magiques qui donnent certains pouvoirs ou qui protègent ces bracelets, là, il faut beaucoup faire attention. Ces bracelets sont en rapport avec les démons. Et les démons sont mauvais pour les humains. Selon la Bible, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ se confient à Dieu seul, sans recourir à autre chose pour se protéger.
Malgré ces différents avis, le port du bracelet reste toujours d'actualité et certains croient fermement à ces vêtements de protection contre les mauvais sorts.
8 heures passées de 9 minutes, ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant, 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. Vous pouvez également réécouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Ne déconnectez pas dans un instant la version Bambara avec Idrissa Sako. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée de mercredi. La féminisation de l'immigration irrégulière est une réalité au Mali, un constat fait par les associations d'aide aux migrants. Qu'est-ce qui est à l'origine du déplacement de la gente féminine? Constitue-t-il toujours une opportunité pour ces femmes et leurs familles? Des éléments de réponse dans le magazine Toutes les femmes du Mali. Il est signé Fatih Yattara.
Cette Caïsienne ayant requis l'anonymat qu'on a surnommée Amanda est une candidate à l'immigration. Mon départ est imminent. J'attends juste quelques détails, nous a-t-elle confié. Elle dit être motivée par le désir de venir en aide à sa famille et d'avoir un lendemain meilleur.
Moi, j'ai été motivée par mes amis car beaucoup sont partis et ont réussi leur vie. Elles sont revenues avec une fortune et beaucoup de biens. Certaines prennent désormais leur famille en charge et elles sont indépendantes.
Les cas Amanda n'est pas exceptionnelle, elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir tenter l'aventure. L'ONG Direi Bendegawo, qui est un centre d'accueil et appui des migrantes de retour de la Libye, indique avoir accueilli récemment des migrants dont la majorité sont des femmes. Ibrahim Miharata Meiga.
Aujourd'hui, on a sous la main 25 migrants, hommes et femmes. De janvier à aujourd'hui, on a accueilli 18 femmes maliennes migrantes. Généralement, ces femmes, elles sont nigériennes, centrafricaines, entre autres.
La plupart des cas de migration clandestine se soldent par des mésaventures et d'autres catastrophes, affirme Lif Atoumata Koulibaly, présidente de la coalition Droit, Intégration et Médiation de la CAFO. Pour faire face à ces drames, elle invite les décideurs à l'élaboration de plusieurs politiques de protection des femmes migrantes.
Et malgré ces emplois, elles sont vulnérables. Elles subissent des violences physiques, sexuelles, psychologiques, non-paiement de salaire parce qu'elles n'ont pas de papiers, elles sont rentrées inégalement. Ceux-ci refusent de payer leur salaire. Et pourtant, aucune politique n'a accompagné ce phénomène pour protéger les femmes. On a tendance à oublier ou à ignorer la migration des femmes.
Pourquoi nous assistons aujourd'hui à une féminisation de l'immigration irrégulière au Mali? Alors qu'elle n'est pas culturelle, les traditionalistes évoquent un facteur d'émancipation qui, selon eux, est source de dégradation de nos mœurs et coutumes. Amadou Diallo, traditionnaliste.
C'est une pratique nouvelle dans nos sociétés. La femme, dans nos coutumes, elle est faite pour garder sa maison, prendre soin de ses enfants, son mari et ses biens. Elle était responsabilisée, mais juste dans son foyer.
Une situation qui peut conduire à la dislocation de certains foyers et l'effritement de nos valeurs sociétale, regrette les traditionalistes.
La femme qui opte pour l'immigration revient souvent avec un comportement et une vision différente de ceux de son mari et c'est là qu'il commence la mésentente.
La pauvreté est l'une des causes directes de l'immigration des femmes, explique le sociologue Fodié Tandjigoura.
On a certaines pratiques qui poussent les femmes à partir, telles que les mariages forcés et également il y a l'échec scolaire. On a aussi l'existence de plus en plus des réseaux de migration clandestine. Donc c'est un ensemble de facteurs combinés qui fait qu'aujourd'hui, autant que les hommes, les femmes, elles aussi partent.
Mais de notre point de vue, l'immigration des femmes n'est pas un fait nouveau. Depuis des temps immémoriaux, les femmes accompagnaient ou rejoignaient leurs conjoints partis à l'étranger, conclut des sociologues.